Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 la porte-parole du gouvernement. Questions et réactions, chers auditeurs, dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Sibeth Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à ce micro. Les retraites, on y vient évidemment à côté de l'instauration d'un âge pivot de départ sur lequel on va revenir dans quelques instants. Le cœur des annonces du Premier ministre hier, c'est un calendrier en fonction de l'âge auquel chacune et chacun est né. Pour les plus jeunes, l'entrée se fera dans le nouveau système en 2022. Ensuite, ce sont les Français nés en 1975 qui basculeront avec des règles particulières pour les régimes spéciaux. Alors dites-nous pour commencer, pourquoi avoir échelonné la réforme sur une telle durée? Chacun va s'arracher les cheveux en fonction de son âge, de son statut. Vous vouliez simplifier. Est-ce que vous ne prenez pas le risque de compliquer en ajoutant aux mille feuilles de nouvelles couches?
Bien au contraire, ce que nous avons souhaité faire, en quelque sorte, c'est s'assurer qu'on ne perturbe pas la vie de chacun. Quand vous avez une cinquantaine d'années, autrement dit, quand vous êtes à 15-17 ans de la retraite en 2025, vous avez sans doute, probablement, déjà fait vos plans. Vous vous êtes organisé, projeté dans votre vie future de retraité. C'est un moment important qu'on prépare parfois avec un peu d'angoisse, parce que c'est le moment où on bascule de la vie active à cette vie qu'il faut bien organiser. Et donc, on a souhaité faire en sorte que ceux qui, au fond, commençaient déjà à se projeter dans leur retraite ne soient pas perturbés, d'où ce choix de la génération 1975, ce qui signifie grosso modo les gens qui auront une cinquantaine d'années.
C'était une erreur de parler de la génération 63, c'est-à-dire le premier chiffre qui avait été avancé par Jean-Paul Delevoye et par le Premier ministre.
Mais c'est tout simplement le témoignage du fait que les mois qui viennent de s'écouler n'ont pas été des mois inutiles. Ce sont des mois au cours desquels nous avons discuté, nous avons entendu les Français et en particulier leurs angoisses vis-à-vis de cette réforme.
Et alors, les mois qui arrivent maintenant, est-ce que ça va changer encore? C'est désormais la génération 75, ce sera écrit dans la loi, ça ne va pas rebasculer, vous n'allez pas changer d'avis dans deux mois, reculer encore, dire
c'est terminé, c'est fermé définitif,
la génération 75.
Je ne considère pas que dans cette réforme, il y aurait un jeu d'avancée et de recul. Ce que je considère, c'est qu'on bâtit des compromis dans une démocratie qui se veut à la fois une démocratie parlementaire, donc il y aura des amendements qui seront portés par les parlementaires, et dans une démocratie qui est aussi une démocratie sociale, il y a des discussions avec des organisations syndicales, il y a des avancées, si vous le souhaitez, si vous voulez employer ce terme, qui sont faites de part et d'autre, on bâtit un compromis.
Mais la génération 75, on n'y revient pas? Ou on peut y revenir au Parlement?
Non, je considère aujourd'hui que c'est un bon compromis que d'avoir une génération de gens qui, au fond, sont ceux qui sont aujourd'hui vraiment au quotidien potentiellement préoccupés par leur retraite.
Et donc, texte présenté en janvier et vote avant les municipales, c'est-à-dire avant le mois de mars en première lecture, c'est ça?
C'est notre ambition, effectivement.
Mais le calendrier, là...
Oui, le calendrier, le texte de loi sera proposé au Conseil des ministres le 22 janvier prochain, et ensuite, nous prendrons le premier espace parlementaire possible au mois de février.
On va revenir, Sibeth Ndiaye, il y a d'autres points clés de la réforme, mais d'abord, la réaction immédiate de la CFDT, qui était le principal syndicat à soutenir la réforme. Il passe dans l'opposition et appelle à manifester mardi. Laurent Berger estime que l'instauration d'un âge pivot à 64 ans, c'est franchir la seule ligne rouge que la CFDT avait posée dans cette première phase de concertation. Que dites-vous à Laurent Berger ce matin ?
Ce que je veux d'abord souligner, c'est que nous avons beaucoup de convergences avec un certain nombre d'organisations syndicales.
Explorons la divergence, là, parce qu'elle est massive.
C'est important parce que dans le moment qui est le nôtre, dans le moment politique qui est le nôtre, c'est important de dire au moins ce sur quoi on est d'accord. On est d'accord avec la CFDT sur le fait qu'il faut un système qui soit plus juste, plus compréhensible et plus lisible. Ça, c'est quand même un bon point de départ parce que c'est la majorité du système.
Là où nous avons passé dans l'opposition à la réforme, alors qu'il la soutenait.
Là où nous avons, il est toujours convaincu du fait que le système que nous proposons est un système universel, plus juste, plus équitable. Là où nous avons un désaccord, c'est que nous estimons que nous devons avoir et de la transparence et de la responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Transparence, ça veut dire quoi? Ça veut dire la vérité sur la manière dont on finance les mesures extrêmement sociales que nous avons adossées à cette réforme, cette transformation du système de retraite. Parce que si je me tenais devant vous, Nicolas Demorand, et devant l'ensemble des Français, en disant nous allons revaloriser les enseignants, en disant nous allons faire en sorte que la retraite des agriculteurs, des commerçants, soit améliorée pour atteindre 85% du SMIC net, et que je ne vous disais pas comment je comptais le financer, vous me rigoleriez au nez et vous auriez raison de le faire. Et donc il nous semble que en transparence comme en responsabilité, il est important de dire aux Français le chemin que nous empruntons. Mais nous avons aussi indiqué que si les partenaires sociaux trouvaient un meilleur chemin pour atteindre un système qui soit équilibré, non pas en 2025 comme nous le souhaitions initialement, mais en 2027, en prenant plus de temps, nous prendrions évidemment la solution qu'ils pourraient proposer.
Sibeth Ndiaye, Laurent Berger ne vous rigole pas au nez, comme vous dites, il a claqué la porte. Hein. Il a dit qu'il fallait distinguer le sujet, ne pas tout mélanger entre une réforme systémique et des mesures paramétriques. Il a des mots très durs. Il parle de la technocratie de comptable, en parlant du gouvernement, technocratie de comptable, à force de faire du « et en même temps, vous faites mal du moitié-moitié », a-t-il dit hier. Vous entendez les critiques ?
Je suis pour le coup pas d'accord avec ce que dit en l'espèce Laurent Berger, parce que moi je considère que en fait cette distinction entre ce que serait une réforme paramétrique et une réforme systémique n'a absolument pas lieu d'être. Quand on se pose
Emmanuel Macron en août à la télévision sur France 2 émettait des doutes lui-même sur l'âge pivot en disant c'est pas le sujet c'est la réforme
à point. Alors, il y a plusieurs questions que vous posez. Première question, est-ce que nous avons toujours été très clairs sur le fait que compte tenu de l'évolution démographique de notre pays, il y a aujourd'hui moins d'actifs que par rapport à la proportion, en proportion par rapport aux retraités. Compte tenu du fait qu'on rentre plus tard sur le marché du travail, qu'il fallait allonger progressivement le temps qu'on passait à travailler. On l'a toujours dit, on l'a dit pendant la campagne présidentielle et dans les deux dernières années, nous l'avons systématiquement redit. Donc il n'y a pas de surprise de ce point de vue-là sur cet allongement de la durée de vie au travail. La deuxième chose que nous avons toujours expliqué, c'est qu'au fond, dans cette réforme, tout est paramétrique ou tout est systémique. Il n'y a pas des choses qui seraient différentes. Vous ne pouvez pas vous présenter devant les gens en disant « j'ai des mesures très sociales, profondément de justice sociale, mais au fond, je vous dis pas comment je vais le financer. Ça n'existe pas.
Pourquoi on en est là? Pourquoi on en est là où vous avez quasiment tous les syndicats contre vous, où les Français sont de plus en plus anxieux, où les transports sont bloqués? Comment vous expliquez que vous avez réussi à faire la quasi-unanimité contre une réforme que vous jugiez juste et équitable, que vous n'avez pas réussi à créer le désir, l'adhésion, l'enthousiasme pour votre réforme et qu'aujourd'hui vous avez quasiment tout le monde contre vous sauf le MEDEF? Comment vous expliquez ce ratage ?
Tout le monde, je crois qu'il faut reprendre les choses avec un tout petit peu de raison. Il y a des organisations syndicales qui ont toujours dit, de tout temps, qu'elles refusaient de signer quoi que ce soit. Que Sud Solidaire ou que la CGT ne signent pas un accord avec le gouvernement, notre gouvernement, nos prédécesseurs socialistes, ceux encore d'avant de droite, en vérité, c'est pas tellement une surprise. Qu'il y ait des syndicats réformistes, c'est plutôt le cas de la CFDT, c'est plutôt le cas de la CFTC et de l'UNSA, considèrent aujourd'hui que ce sujet de l'équilibre financier ne doit pas être une question, je le regrette. Je sais que dans d'autres régimes, ils ont pris leurs responsabilités. Je sais qu'à d'autres époques, la CFDT, par exemple, a fait le choix d'une avancée sociale qui était majeure, qui était celle de l'instauration des carrières longues, parce que c'était un sujet important où il fallait faire en sorte...
Mais qu'est-ce que vous avez raté pour reposer la question de Léa à l'instant, pour qu'un syndicat réformiste et plus largement un grand nombre de Français n'éprouvent qu'inquiétude et anxiété à l'égard
d'une telle réforme? C'est pour ça que je pense important et refus
là maintenant pour la CFDT.
Je pense important de distinguer ce qu'est une organisation syndicale de ce que vous appelez les Français en général. Moi, je ne suis pas certaine dans ce que vous dites, je ne suis pas certaine, parce que sans doute comme moi, regardez-vous l'évolution des sondages. Je ne peux pas vous dire, je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que tous les Français, à une très large majorité, sont contre cette réforme et considèrent qu'il ne faut pas la réaliser. Je pense
qu'ils expriment, mais... par exemple, sondage Ipsos Soprasteria, 11 points de plus, 11 points de plus, Sibeth Ndiaye, d'anxiété et d'inquiétude vis-à-vis de cette réforme en novembre par rapport à septembre. C'est-à-dire qu'en 2 mois, vous avez réussi à les angoisser.
Et on verra ce qu'ils diront une fois que les annonces qui ont été faites par le Premier ministre, les éclaircissements qui ont été apportés, apporteront. Mais je vais vous dire une chose. C'est normal d'être angoissé par rapport à la réforme des retraites. C'est normal pour une bonne et simple raison que, de manière générale, quand on vous parle de retraite, on est angoissé. C'est une période de la vie qui n'est pas évidente parce qu'on bascule dans autre chose. Donc moi, ça n'est pas étonnant qu'on soit angoissé. C'est à nous de convaincre, de rassurer Et en étant à votre antenne ce matin, c'est ce que j'essaie de m'employer à faire.
La crise des gilets jaunes l'an dernier, à la même période, les avait fragilisés, Sibeth Ndiaye. Si la grève dure jusqu'à Noël, s'il n'y a pas de transport, vous direz quoi aux commerçants, restaurateurs, hôteliers qui vont perdre de l'argent dans la période cruciale des fêtes de fin d'année et qui disent déjà, à la fin, c'est Amazon qui va gagner?
Évidemment que je ne peux que regretter la situation dans laquelle on est. Je ne peux que regretter qu'il y ait cet empêchement pour des artisans et des commerçants qui sont parmi les bénéficiaires de la réforme que nous allons porter avec ce minimum de retraite à 1000 euros. Je le regrette très profondément. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, nous avons activé la cellule de crise ad hoc à Bercy qui permet d'accompagner les commerçants, de différer le paiement d'un certain nombre de cotisations sociales auprès des
URSSAF. Et il y aura des aides ou est-ce que vous avez quelque chose à annoncer?
Il y a, de toute façon, quand il y a des moments de crise de cette nature-là, nous avons un ensemble de mécanismes qui peuvent être activés. On paye plus tard ses charges auprès de l'URSSAF. On peut avoir des décalages de trésorerie qui sont aussi réalisés. Ça, c'est des mesures d'accompagnement. Il faut regarder comment les choses vont s'opérer dans la durée. Je peux pas vous dire aujourd'hui qu'on va mettre en place je ne sais quel fonds. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous suivons avec beaucoup d'attention à Bercy, au ministère de l'économie, la situation et que nous faisons un point tous les deux jours avec les commerçants.
Sibeth Ndiaye, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions sur ce qu'on appelait jusqu'à hier l'âge pivot, qu'on va appeler maintenant l'âge d'équilibre, c'est le nouveau mot que vous avez privilégié. Pour être très clair, je suis née en 1965, ou je suis née en 1977, ou je suis née en 1985. Est-ce que je vais bien devoir travailler jusqu'à 64 ans si je veux toucher une retraite à taux plein? Est-ce bien ça déjà sur le premier présupposé?
Alors, c'est important de savoir aujourd'hui, en moyenne, à quel âge les Français partent en retraite. Parce que l'âge légal de départ à la retraite, celui à partir duquel vous pouvez dire « je pars », c'est 62 ans. En moyenne, les Français partent à 63 ans et 4 mois, à l'instant T où je vous parle. Toutes les projections démographiques montrent que en 2025, de fait, les Français partiront à 64 ans. Ce que nous avons voulu faire, c'est inciter à travailler davantage tout en donnant de la liberté aux Français. Peut-être qu'il y en a, certainement, qui, à 62 ans, accepteront d'avoir un petit malus.
De combien ?
Alors ça, c'est dans les discussions, mais aujourd'hui, vous avez déjà un malus, ce qu'on appelle les décotes et surcotes, c'est un peu compliqué, mais vous avez déjà des malus qui existent quand vous partez avant d'avoir l'intégralité de vos annuités, de vos fameux trimestres de cotisation.
Et donc ce qui est important, ça serait un malus entre 5 et 10%, c'est ça? Ça joue sur ça,
c'est justement de l'ordre de ce qui est sur la table en termes de négociation. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que on va pas mentir aux Français. Aujourd'hui, on travaille déjà un peu plus que l'âge légal. Ce que nous voulons faire, c'est dire en toute transparence le moment où il y a du malus et le moment où il y a du bonus.
Et ce sera 64 ans.
Et ce sera 64 ans en 2025. En 2027. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous avez chaque année 120 000 personnes qui partent à la retraite à 67 ans parce qu'elles n'ont pas le choix de faire autrement, elles n'ont pas assez de trimestres et ce sont des femmes en majorité. Et pour ces personnes-là, nous allons partir de 67 ans pour faire en sorte qu'elles travaillent à terme 3 ans de moins.
D'accord.
Je dis bien 3 ans
si
de moins.
Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Si je pars à 62 ans, le malus de 5%, je le paye jusqu'à 64 ans seulement ou je le paye sur toute ma retraite?
Non, vous payez jusqu'à 64 ans.
Et après, je regagne...
Vous revenez à taux plein, oui.
Je reviens à taux plein. Donc pendant 2 ans, je paye un malus.
Exactement.
Et à partir de 64 ans, je reviens à taux plein.
Et ce que je veux aussi souligner, c'est que dans les dispositions que nous proposons, nous faisons en sorte que vous puissiez, si pareil, parce qu'il y a quelque chose, il faut être dans la vraie vie. Dans la vraie vie, quand vous arrivez au moment de la retraite, il y a des gens qui vont vous dire j'ai envie de progressivement arrêter mon activité professionnelle. Donc je voudrais pouvoir cumuler un emploi et ma retraite. Et quand on fera ça dans le nouveau système, on pourra continuer à engranger des points pour améliorer sa retraite. Il y a pas très longtemps, j'ai rencontré une infirmière de bloc opératoire. C'était à Tourcoing. Et cette infirmière de bloc opératoire, elle m'a dit « Moi, je suis fatiguée en avançant en âge. Je me vois pas jusqu'à 64 ans, debout au bloc opératoire pendant plusieurs heures. » Elle me dit « Mais en revanche, j'ai envie de transmettre quelque chose aux jeunes infirmières qui arrivent au bloc. » Et donc elle m'a dit « Mais pourquoi vous ne donnez pas la possibilité d'être à temps partiel ?» Ça, c'est quelque chose qu'on va travailler et sur lequel on souhaiterait travailler avec les organisations syndicales. Donc on voit bien qu'il y a cette nécessité pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de solidarité dans le système, pour pouvoir l'asseoir de manière durable, d'allonger un peu le temps pendant lequel on travaille, mais on peut discuter vraiment des conditions conditions dans lesquelles on termine sa carrière professionnelle.
Allez, on va donner la parole aux auditeurs de France Inter. C'est un déferlement de questions ce matin. Allons-y avec vous, Samy. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, bonjour, Madame Diaye.
Bonjour.
Moi, je voulais parler d'autre chose que de la réforme des régimes de retraite, mais en même temps parler de ça, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous ne vous rendez pas compte, ni vous, ni Emmanuel Macron d'ailleurs, que le problème en France dépasse vraiment le régime des retraites et la réforme du régime de retraite, mais c'est un problème social aujourd'hui, c'est un problème de révolte sociale. Je pèse bien mes mots, parce que l'injustice sociale, les inégalités qui se creusent aujourd'hui en France sont tellement énormes, le gap est tellement énorme. Moi, je suis cadre, je suis haut cadre, et je gagne très bien ma vie, et je vois les différences qui se creusent, les salaires dans les entreprises, dans le privé, sont tellement énormes. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça, madame? Vous savez que aujourd'hui, vous pensez juste,
permettez-moi, Samy, de vous interrompre, que ce qui se joue en ce moment à travers la mobilisation contre la réforme des retraites, c'est une tentative de mettre des mots sur les colères contre l'injustice sociale.
Tout à fait, ça dépasse de loin. Et vous savez, tout ce que vous allez entreprendre comme réforme, Madame Ndiaye, et tout ce que votre gouvernement et Emmanuel Macron, ça va être rejeté parce que les gens on en marre, le ras-le-bol est énorme, la fracture, le gouffre est en train de se creuser de jour en jour, et vous êtes inconscient et vous croyez qu'avec cette réforme, et la supercherie, c'est que vous dites que justement, votre réforme va dans le sens de réduire les inégalités. Ça ne passe pas. Bien compris,
voilà. Samy. On va donner la parole pour qu'elle puisse vous répondre à Sibeth Ndiaye. On a beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là, je le précise. Que répondez-vous à Samy ?
Ce que je veux d'abord répondre, c'est que nous avons évidemment une attention particulière pour ceux qui sont les plus fragiles d'entre nous. Dans la réforme des retraites, ça se traduit par le fait que les femmes en particulier, ce sont toujours celles qui ont 40%, plus de 40% de retraite en moins que les hommes. Et donc, nous avons un certain nombre de mesures pour faire en sorte que ce soit plus le cas. Puis, Samy m'interroge sur, au fond, ce que nous avons fait depuis le début du quinquennat. On nous a beaucoup demandé...
Non, il vous demande si vous avez conscience que la colère monte. C'est ça le fond de sa question.
Mais je veux aussi lui répondre par des faits, parce qu'on peut avoir un sentiment général, et c'est aussi important de regarder les faits. On nous a beaucoup dit qu'il fallait augmenter les salaires de manière générale. Augmenter les salaires de manière générale, ça aurait été faire en sorte que Samy, qui dit qu'il est un haut cadre, soit augmenté aussi. C'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix d'augmenter la prime d'activité. La prime d'activité, ça s'adresse à ceux qui sont au SMIC. Donc ça s'adresse à ceux qui ont parmi les plus bas revenus. On a fait une deuxième chose dans la réforme des retraites. On a décidé d'imposer, en quelque sorte, de la solidarité aux plus hauts revenus. Quand vous gagnez plus de 120 000 euros par an, ce qui est énorme, tous les revenus que vous gagnez au-dessus par le salaire seront ponctionnés de près de 3%, c'est très exactement 2,8%, pour faire de la solidarité dans le système de retraite, pour payer les 1000 euros pour ceux qui ont eu des petits revenus.
Mais en tout cas, vous ne sentez pas la colère monter dans le pays. Ça, c'est encore une fois le cœur de la question de Samy.
Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que oui, il y a des gens qui sont en colère, sinon il n'y aurait pas de gens qui manifesteraient. De toute évidence, il y a des gens qui sont inquiets. Est-ce que pour autant, on est dans une situation insurrectionnelle ? Non, je ne le crois pas.
Fabien est au standard. Bonjour Fabien, bienvenue.
Bonjour, alors justement vous venez de parler des fameuses mesures de solidarité avec les soi-disant 2,8% supérieurs à 10 000 euros de salaire mensuel qui seraient redistribués. Sauf que vous omettez une réalité, c'est qu'aujourd'hui ces salaires supérieurs à 10 000 euros payent jusqu'à 27 000 euros par mois, ce qui n'est pas rien, de salaire, payent 28% de cotisation. Donc en fait c'est une belle ristourne entre 10 000 et 27 000 euros que vous êtes en train de faire pour les plus hauts revenus et non pas la mesure de solidarité que vous cherchez à mettre en avant. Comme d'habitude, ce gouvernement fait le Robin des Bois à l'envers.
Merci Fabien pour cette question. Sibeth Ndiaye vous répond.
Alors je crois qu'il y a une petite incompréhension sur ce qu'on fait. En gros, tant que vous avez entre 0 et 10 000 euros de revenus mensuels par votre salaire, vous payez 28% de cotisation. Donc plus vous êtes riche, entre guillemets, plus vous payez de cotisations et plus vous avez une pension de retraite qui est importante. Au-delà de 10 000 euros, vous payez 2,8% de cotisations et ça, vous n'en retirez aucune retraite pour vous. Vous le donnez au système et le système s'en sert pour faire de la solidarité avec ceux qui ont de plus bas revenus.
Mais donc, avant, je crois c'est ça ce que dit Fabien, avant il y avait des cotisations au-delà de ce seuil-là.
Et ces cotisations servaient à payer une pension de retraite.
Oui, mais pas uniquement.
Si, elle servait à payer une pension de retraite, puisque, en fait, votre pension de retraite, elle est calculée proportionnellement à ce que vous avez cotisé. Donc, en fait, plus vous cotisez, plus vous avez une pension de retraite importante. Donc là, au-delà de 10 000 euros, vous n'avez plus de pension de retraite payée par la solidarité du système.
Donc c'est plus juste, c'est ça ce que vous dites aujourd'hui.
C'est plus juste parce que vous donnez de l'argent, volontairement ou pas, vous donnez de l'argent pour alimenter un système de solidarité envers une femme qui n'a pas réussi à accumuler assez de points pour aller jusqu'à une carrière complète.
Pour les enseignants, j'ai pas tout compris de ce qu'a dit le Premier ministre hier. Il a promis que le niveau des retraites des enseignants serait sanctuarisé, qu'il ne serait pas perdant, qu'il serait comparable au niveau des retraites des fonctions ou des métiers équivalents dans la fonction publique. Cette petite phrase que j'ai pas compris. Quand on sait que le niveau moyen des primes dans la fonction publique est de 22% et que dans l'éducation nationale, il est faible, il n'est qu'à 9%. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à partir de 2022, les primes des enseignants vont monter au niveau de 22%?
Alors, il y a plusieurs choses qui sont un peu complexes dans votre question. La première, c'est que, de manière générale, nous allons faire en sorte que toutes les primes aujourd'hui qui constituent le salaire des enseignants soient intégrées, permettant ainsi de s'intégrer dans le calcul de leur retraite.
Ça, c'est la première chose.
Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une grande avancée parce que, au fond, ça permet potentiellement d'augmenter votre niveau de pension. Ah. Mais, j'entends bien, pour les enseignants, ils ont très peu de primes. Donc, aujourd'hui, il y a des enseignants dont toute la pension de retraite sera calculée en fonction de l'ancien système. C'est tous ceux qui sont nés avant 1975.
D'accord. Pour
donc,
les autres.
Ceux-là, ils ne sont pas concernés.
Donc, enseignante. Je suis née en 1975.
Vous êtes née le 1er janvier 1975.
Voilà. Quand est-ce que je serai augmentée?
Au moment où vous partirez à votre retraite, vous aurez fait une grande partie de votre carrière dans l'ancien système et une petite partie de votre carrière dans le nouveau système. Pour cette petite partie de votre carrière dans le nouveau système, pour que vous ne soyez pas pénalisé, il faut qu'on détermine, et c'est ce qu'on doit déterminer avec les organisations syndicales, quel est le facteur d'augmentation qu'on doit vous apporter pour que vous n'ayez pas de perte et que vous soyez bien au même niveau de salaire.
Donc vous allez m'augmenter mes primes pour cette petite partie-là.
On va avoir une discussion pour augmenter votre rémunération. Et puis,
parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui veulent savoir, les enseignants.
Et donc, on a
900 000 enseignants.
C'est très clair. Écoutez le discours du Premier ministre a été de ce point de vue-là limpide. On a dit, on démarre une négociation, donc une négociation sur les rémunérations. Au premier semestre 2020, on veut qu'elle soit achevée à l'été 2020 et à partir de là, on pourra dire la date à laquelle on le fait. Et il a indiqué que toutes les mesures qu'on mettait en place, le minimum de retraite à 1 000 euros, c'était à partir du 1er janvier 2022.
Mais pour les enseignants, il n'a pas indiqué.
Mais laissez-moi terminer ma phrase. Si on trouve un accord avec les organisations syndicales, nous sommes favorables à ce que cette augmentation progressive, on ne va pas augmenter d'un coup, ça ne correspond pas à la réalité de l'évolution des salaires des enseignants dans leur carrière. On ne va pas augmenter d'un coup, donc on va progressivement réaliser cette augmentation. On peut le faire dès 2021, ça doit résulter d'une négociation sociale.
Vous ne pouvez pas nous dire exactement de combien les enseignants vont être augmentés. C'est ça que vous dites.
Le salaire des enseignants évolue dans leur vie. Ils commencent bas, il y a un plateau quand ils sont en milieu de carrière et ensuite ils ont une augmentation rapide en fin de carrière.
Je pose juste
donc,
leur inquiétude.
Donc, demandez-moi, est-ce qu'un enseignant qui a 5 ans d'ancienneté, de combien il doit être augmenté? Moi, je peux pas vous le dire aujourd'hui parce que il faut voir quelle est la différence de salaire qui aujourd'hui est à l'œuvre et qui fait qu'il serait perdant par rapport à sa pension. Votre salaire, il évolue au cours de votre vie. Donc, si on doit combler un déficit, ça ne peut pas être la même augmentation pour tout le monde, uniforme à tous les moments de sa carrière. C'est une évidence.
Jean-François est au standard depuis Chambéry. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour France Inter. Bonjour Madame Ndiaye.
Bonjour.
Voilà, puisque finalement votre nouvelle réforme, enfin c'est une contre-réforme hein, plutôt par rapport à la solidarité qui avait été instaurée après la guerre par le Conseil national de la Résistance, mais puisque cette nouvelle discrimination qui apparaît va toucher essentiellement les jeunes après 75, les femmes, les précaires, les saisonniers, ne craignez-vous pas que tous ces gens-là qui étaient finalement pas très très présents dans la contestation jusqu'à présent, finalement rejoignent en masse, surtout les jeunes, parce que c'est quand même eux les sacrifiés par votre réforme, contre-réforme, pardon, vous ne craignez pas qu'ils viennent gonfler les rangs de la contestation déjà très importante?
Merci Jean-François. Sibeth Ndiaye vous répond sur les jeunes peut-être. pour commencer. Jeune et précaire, disait Jean-François, souvent les deux sont synonymes pour les entrées, notamment dans la vie professionnelle.
Cette année, je fête mes 40 ans. À cette occasion, j'ai reçu, mon décompte, mon premier décompte pour la réforme des retraites. Et donc, on doit avoir sur ce décompte-là l'ensemble de vos activités professionnelles. Puis, je me suis rendu compte à cette occasion qu'il y avait plein d'activités professionnelles que j'avais exercées quand j'étais étudiante pour payer mes études en parallèle qui n'y figuraient pas. Et j'ai compris à ce moment-là que quand vous avez cotisé moins de 150 heures par trimestre, vous ne validez pas de trimestre. Dans le futur système, on le validera. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que quand vous êtes une vendeuse intermittente, quand vous faites de l'intérim, quand vous êtes dans la précarité, vous faites deux jours de boulot par-ci, deux heures par-là, ça ne compte pas pour calculer votre pension de retraite. Ça ne compte pas pour accumuler des trimestres de cotisation. C'est une injustice profonde du système actuel sur laquelle, à laquelle nous allons remédier, puisque chaque heure que vous aurez travaillée sera une heure qui permettra d'accumuler des points pour votre retraite.
Sibat Ndiaye, Jean-Paul Delevoye a dû démissionner de deux fonctions en deux jours, l'une rémunérée, l'autre pas. Est-il encore la bonne personne pour porter cette réforme ?
Jean-Paul Delevoye a, si j'ose dire, chevillé au corps cette réforme des retraites parce que il est convaincu profondément que c'est sans doute l'une des plus grandes réformes de justice sociale que nous aurons apportées dans ce quinquennat, et je le crois très profondément. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, d'un point de vue technique, a une excellente connaissance de ce dossier. Oui. C'est la deuxième chose que je veux dire, mais c'est important de reconnaître la valeur intrinsèque des gens, et en l'occurrence, c'est ce que je souhaite faire à ce micro.
Alors donc, est-il la bonne personne ?
Quand on regarde, au fond, de quoi on parle concrètement, il n'a rien dissimulé auprès de la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique. Si vous êtes au courant, si nous sommes au courant de la rémunération qu'il a perçue, c'est parce qu'elle figure noir sur blanc sur le site de la HATVP. La HATVP, moi j'ai aussi eu à faire une déclaration.
Pourquoi il a démissionné ? Il a promis de rembourser si tout va bien.
Mais tout simplement parce que je crois qu'il a cette volonté de ne pas donner le sentiment qu'il aurait voulu ou dissimuler quoi que ce soit ou qu'il aurait triché avec le système. Quand il a fait sa déclaration à la HATVP, on lui a pas dit, manifestement, puisque sinon ça n'aurait pas été publié sur le site, qu'il y avait un problème. Donc dès lors qu'on vous dit pas qu'il y a un problème, vous êtes fondé à ne pas considérer qu'il y a un problème. Si maintenant on vous dit, attention, ça pose problème, assez naturellement, vous faites quelque chose de normal qui consiste à dire, je n'ai pas voulu dissimuler, je n'ai pas voulu tricher avec le système, mais si c'était un problème, je rembourse tout simplement les sommes et je crois que c'est ce qu'il souhaite faire.
On en reste là. Merci beaucoup, madame la porte-parole du gouvernement, Sibat Ndiaye, d'avoir été au micro de France Inter, 8h49.